Charles Baudelaire est un auteur français du XIXe siècle, à la croisée du romantisme et du symbolisme. Il publie deux recueils majeurs, Les fleurs du mal en 1857, qui fera l'objet d'un procès pour outrage à la morale publique, et Le spleen de Paris, un recueil posthume qui est publié en 1869. Dans Les fleurs du mal, plusieurs poèmes abordent la question de l'amour et de la femme aimée de manière assez peu conventionnelle. Le poème que nous allons étudier s'intitule « À une passante » et figure dans ce recueil. C'est un sonnet qui raconte une rencontre amoureuse entre le poète et une femme passant dans une rue de Paris. Nous allons nous demander comment ce poème traduit l'impression de coup de foudre, et nous allons voir que tout d'abord ce poème propose une vision ambiguë de l'idéal féminin, puis nous verrons que ce poème décrit un amour fugace et impossible. Je vais vous lire le texte. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Nous allons donc voir que ce poème propose une vision ambiguë de l'idéal féminin. Tout d'abord, en effet, ce poème propose une apparition de la beauté au milieu de la laideur, puisque nous avons de nombreux adjectifs mélioratifs concernant cette femme, comme agile, au vers 5, noble, au vers 5 également, fastueuse, majestueuse, au vers 3 et 2. On peut également noter la métaphore que le poète utilise pour décrire le corps de cette femme, puisqu'il parle de sa jambe de statue, ce qui indique l'idée d'une beauté sculpturale. On peut également remarquer l'apostrophe « beauté » au vers 9, qui montre que le poète résume cette femme, il l'interpelle par ce terme, et donc il la définit par ce terme même de beauté, cette qualité de la beauté. Cependant, cette apparition de la beauté se fait au milieu de la laideur, puisque le cadre de cette rencontre est une rue qui est personnifiée au vers 1, la rue assourdissante hurlait, et qui semble très hostile. Cette femme, donc, très belle, contraste par son élégance et par sa beauté sur la vulgarité de cette rue. Cependant, cette vision idéale est aussi ambiguë, puisque cette femme est assez peu décrite physiquement. Il s'agit avant tout d'une silhouette, puisqu'on a l'indication uniquement de sa jambe et de sa robe. Le poème insiste surtout sur son statut social. Elle semble inaccessible, puisqu'elle est majestueuse et fastueuse, ce qui indique la richesse et le luxe. Et la description de cette femme comporte plusieurs éléments mortifères qui évoquent la mort, hein, comme la statue, qui peut connoter la froideur, l'immobilité, le fait qu'elle soit en deuil et qu'elle ressente de la douleur, comme il est indiqué au vers 2. Également le verbe tuer et fasciner qui se trouve au vers 8, qui nous indique que la femme a à la fois été touchée par la mort puisqu'elle est en deuil, et elle la répand autour d'elle puisqu'elle tue par comme par pétrification, hein, puisqu'elle crispe et elle fascine le poète. On peut donc dire que le sonnet à une passante propose le portrait ambigu d'une femme, et le poète semble ressentir une attirance morbide pour cette femme. Voilà. D'autre part, ce poème nous propose aussi la description d'un moment d'amour fugace mais impossible. Tout d'abord, ce poème propose un bref moment de suspension, puisqu'on peut voir un changement dans l'énonciation. Hein, le poète parle d'abord de la femme à la troisième personne, une femme passa, avant de basculer à un tutoiement au vers 11, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. On a donc une intimité très soudaine qui est installée entre le poète et cette femme, cette énonciation basculant vraiment au vers 9 entre les quatrains et les sonnets. D'autre part, on trouve ici aussi une évolution dans les temps verbaux, puisque le début du poème est écrit à l'imparfait, la rue hurlait, Puis on passe au passé simple, au vers 3, une femme passa, ce qui nous donne bien l'impression d'une rapidité, hein, dans le contexte est installé et l'action est rapide puisque la femme passa. En même temps, le participe présent du vers 4, avec soulevant, balançant, et ce rythme ternaire de ces deux verbes, évoque le calme du pas et donc la suspension du temps au moment où cette femme passe près du poète, bien qu'il s'agisse d'un moment rapide. Cela dit, ce participe présent évoque aussi une action qui ne s'arrête pas puisque la femme est en mouvement et est décrite comme étant une fugitive au vers 9, le verbe fuir étant rappelé au vers 13 également, où tu fuis, vers 13. Enfin, l'adverbe soudainement au vers 10 ainsi que le terme d'éclair au vers 9 connote l'expression du coup de foudre et la rapidité de cette action. Ce moment donc très rapide provoque chez le poète des émotions extrêmes, comme on peut le voir avec des phrases exclamatives et nominales qui sont utilisées dans les sonnets, avec un éclair puis la nuit, au vers 9, puis au vers 12, ailleurs, bien loin d'ici, point d'exclamation, trop tard, point d'exclamation, jamais peut-être, point d'exclamation. On a donc une sorte de chaos du langage qui vient donner un rythme haché à l'expression dans les deux sonnets. D'autre part, on peut voir que l'œil de la femme est décrit avec une métaphore d'un ciel orageux, le ciel livide où germe l'ouragan, ce qui donne l'impression que le ciel de la femme est agrandi, et montre une perte de repère du poète, ainsi qu'une sorte de menace de tempête émotionnelle. Enfin, la réaction du poète face à cette tempête est organique, physique, puisqu'il parle de boire au vers 6. Je buvais, crispé comme un extravagant. On a donc l'idée que le poète éprouve une espèce de soif, d'avidité et d'attirance physique pour ce danger qui le crispe. Enfin, ce moment propose un amour impossible. L'amour qui est ressenti par le poète est décrit comme impossible, puisque on a bien l'espoir d'une réciprocité avec le tutoiement dont j'ai parlé, puis une construction en chiasme au vers 13, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, qui marque la ressemblance de leur destin. Hein. Les deux se ressemblent en cela qu'ils ne savent pas où va l'autre. On peut également remarquer la construction en parallélisme au dernier vers, « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais », avec la répétition de « Ô toi », qui manifeste l'évidence, « Toi qui le savais », alors même qu'aucun mot n'a été échangé entre eux deux. C'est donc comme si cette rencontre avait permis la connaissance intime de l'autre, de la femme, seulement par le regard, sans mots. Cela dit, cet amour est impossible, puisque après l'éclair mentionné au vers 9, il y a bien le retour à la nuit, au vers 9 aussi, et le retour à la solitude, puisque l'espoir qui est exprimé au vers 11, « ne te verrai-je plus », est tout de suite démenti par le terme « éternité », c'est-à-dire un autre temps, un autre monde, qui serait à la fois dans un autre endroit, ailleurs, bien loin d'ici, ou un autre monde, hein, l'éternité, au-delà de la vie. Voilà, on peut finir par remarquer que après l'emploi du futur au vers 11, « ne te verrai-je plus », on a finalement le retour au subjonctif plus que parfait que « j'eusse aimé », qui vient exprimer l'irréalisation. Il ne l'a pas aimé, il ne pourra pas l'aimer, même si ça aurait pu avoir lieu. Pour conclure, on a donc un poème qui exprime le coup de foudre par la vision fugace rapide d'une femme inaccessible, l'expression de sentiments très ambivalents, à la fois de l'admiration et de la crispation. Cette femme est un aperçu de l'idéal baudelairien qui permet d'échapper au spleen de manière très momentanée. Et on a donc dans ce poème une réinvention du coup de foudre avec des motifs typiquement baudelairiens que sont le spleen, la mélancolie et l'idéal.